Les entreprises affectées par le risque requin peuvent bénéficier d'un soutien financier de la province sud. Des mesures mises en place après les attaques de squales de ces derniers mois. Une femme prend la présidence de l'Union des pompiers calédoniens. L'adjudante Isabelle Marly a succédé vendredi dernier à l'adjudant-chef Mauro Pizzolito. La gendarmerie s'engage pour une meilleure compréhension du monde kanak. Une vidéo de 8 minutes sera diffusée aux nouveaux agents avant leur arrivée sur le territoire. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fait adopter une loi de pays concernant le bien-être animal. Objectif, mieux encadrer l'identification des animaux et responsabiliser leurs propriétaires. La 30e édition du Total Energy Meeting du Cercle des nageurs calédoniens se déroulera ce samedi. Romain Fuchs, tête d'affiche de cet événement, était notamment dans nos studios ce midi. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La semaine dernière, la ville de Nouméa et la province sud décidaient de lancer une nouvelle campagne de prélèvement de requins. Une décision prise après une attaque de squale à la Côte Blanche faisant un blessé. Des attaques de requins qui font baisser la fréquentation des entreprises près du littoral et donc de leur chiffre d'affaires. Mais la province sud a annoncé que les entreprises impactées par le risque requin pouvaient bénéficier d'une aide exceptionnelle de la province sud, Léo Fichou.
Oui, le 19 mars dernier, les élus de la province sud avaient voté à la suite de l'attaque mortelle d'un requin-tigre une aide exceptionnelle à la trésorerie. Ce dispositif couvre les charges des mois de février, mars et avril. Ce dispositif donc est une mesure qui avait déjà été mise en place en 2023. La seconde attaque survenue la semaine dernière ravive les inquiétudes, prolonge la crise, les activités nautiques étant interdites dans la bande littorale des 300 mètres. Parmi les entreprises bénéficiant de ce soutien exceptionnel de la province sud, on retrouve notamment les écoles de kitesurf. Fabien Marquet est le gérant de Vacarme Kite School.
L'activité, elle est en chute libre. À chaque fois, pendant 2-3 mois, on n'a pas de nouveaux inscrits et tout ça. Donc du coup, nous, on a monté un dossier. Il y a 3 ans, quand il y avait eu les attaques à Lanzbata, on avait fait la même chose. Donc ça, c'est cool. La province, elle nous suit et elle nous soutient, quoi. On ne peut pas aller sur le spot vu qu'ils sont en pleine pêche. Donc l'activité, elle est à zéro. La semaine dernière, j'avais 2 ados qui étaient là. Suite à ce qui s'est passé mercredi soir, les parents les ont retirés, ce que je comprends tout à fait. Ils reviendront, mais plus tard. On a quand même l'île au Goéland, donc on essaye de proposer l'activité là-bas, mais après c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas y aller tout le temps. Et nous, on privilégie la sécu, donc on n'y va que sur des marées basses.
Même constat pour Julien Crève, gérant de Nouméa Kite School. Il a lui aussi monté un dossier pour bénéficier de l'aide de la province sud.
Eh ben, on mentionne nos chiffres d'affaires de l'année précédente, mois par mois. Et c'est à partir de cette base de chiffre d'affaires que la province va calculer à quelle hauteur on va pouvoir être un petit peu indemnisé. À chaque fois, on a 10 jours d'interdiction, donc on peut pas dispenser les cours. Et moi, j'ai également un magasin. Du coup, les ventes magasins, ça s'effondre également à chaque arrêté. Les gens, ils n'ont pas forcément envie d'investir dans du matériel. J'ai des charges fixes sur le bateau, sur le chalet, à la marina, donc... Je ne peux pas me permettre d'avoir 10 jours sans aide ou sans rentrée d'argent.
Les écoles de kitesurf ne sont pas les seules entreprises touchées. L'ensemble du secteur touristique subit les conséquences de cette situation. Hôtels, restaurants ou encore exploitants d'îlots peuvent bénéficier de ce dispositif. La province sud pourrait d'ailleurs prendre la décision d'ici la fin de semaine de prolonger cette mesure exceptionnelle d'aide aux entreprises impactées par le risque requin.
Du nouveau chez les pompiers, après 5 ans à la tête de l'Union des pompiers calédoniens, l'adjudant-chef Mauro Pizzolito cède sa place et c'est l'adjudante Isabelle Marlier qui lui succède, Charlotte Coulson.
Impliquée depuis de nombreuses années au sein de l'association, Isabelle Marlier occupait jusque-là les fonctions de secrétaire générale et de déléguée aux jeunes sapeurs-pompiers. Sa nomination à la tête de l'UPC s'inscrit donc dans une transition logique à l'issue d'une assemblée générale tenue en fin de semaine dernière, au cours de laquelle elle était la seule candidate au poste. L'adjudante devient la première femme à diriger l'UPC et sera entourée d'une nouvelle équipe. Adjudante Isabelle Marlier, nouvelle présidente de l'Union des pompiers calédoniens.
Je suis la présidente d'un bureau, d'une équipe qui va travailler, poser des dossiers, faire des propositions, organiser des événements. Et on est déjà à pied d'œuvre depuis samedi. On s'est réparti déjà quelques tâches parce qu'on a des dates qui arrivent bientôt. On a la journée nationale des sapeurs-pompiers le 20 juin. On a le challenge des jeunes sapeurs-pompiers le 13 juin. On est dans la continuité de nos missions. Comme les sapeurs-pompiers, ça ne s'arrête pas quand le chef de corps y change. On continue à aller au feu, on continue à porter secours aux gens. Et ben, l'Union, c'est pareil. Et puis, dans la continuité de nos actions, on va essayer d'innover, proposer des nouvelles choses. Mais la mission a déjà commencé dès la sortie de l'Assemblée Générale samedi.
Et autre sujet qu'Isabelle Marlier souhaite explorer davantage, la valorisation du travail des pompiers sur le terrain, notamment pendant les émeutes de 2024 et au moment de leur départ à la retraite.
On a fait remarquer il y a quelques mois que les pompiers communaux avaient été cruellement oubliés à part au Mont d'Or sur les médailles, les MSI à Grasse-Nouvelle-Calédonie. Et puis après, il y a la reconnaissance aussi de nos anciens. On s'est aperçu, ça fait un petit moment, c'est pas nouveau. Nos anciens, quand ils prennent la retraite, eh ben, on les a tellement pas bien traités ou ils ont eu des conditions un petit peu de départ pas très respectueuses, eh ben, ils partent, ils claquent la porte et on les revoit plus. Et ça, ça nous fait mal, ça nous fait du tort. Donc on a aussi cet aspect-là où on va travailler sur le fait de garder l'esprit, la mémoire et l'entretenir surtout.
L'adjudant-chef Mauro Pizzolito ne quitte pas pour autant l'UPC qui représente aujourd'hui près de 450 sapeurs-pompiers sur les 750 que compte le territoire. Il s'occupe désormais de la commission de l'œuvre des pupilles orphelins et fonds d'entraide des sapeurs-pompiers.
Mieux comprendre pour mieux se respecter, c'est l'ambition de Roi Méret, un court-métrage réalisé par et pour les gendarmes. C'est une vidéo de 8 minutes qui présente les traditions kanaks et qui sera intégrée à la formation des nouveaux gendarmes envoyés sur le territoire, Charlotte.
Roi Méret, c'est un nom qui désigne une éclaircie. Une éclaircie peut-être dans les relations entre les forces de l'ordre et les populations du territoire. C'est en tout cas le but de cette vidéo, selon le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, le général Aouchi. Aider à la compréhension des us et coutumes kanak pour ensuite mieux intervenir sur le terrain.
C'est très important pour nous de pouvoir être au plus proche des populations. Notre mission, c'est vraiment d'être au contact des populations et d'assurer une couverture générale du territoire. Et par conséquent, nous devons connaître toutes les populations. Force est de constater que pour un gendarme qui arrive de la métropole à 16 000 km, il sera peut-être plus rapidement familiarisé avec des Européens installés sur place qu'avec des Kanaks. C'est un autre monde, c'est une métaphysique particulière. Et nous avions ce besoin, comme ça a pu être rappelé durant la présentation, de mieux préparer et former nos gendarmes au contact avec ces populations. D'où ce petit film à vocation pédagogique et opérationnelle, puisqu'il devra accompagner la projection de chaque gendarme dans le cadre d'un enseignement à distance avant départ sur le territoire. Donc c'est important pour nous et nous y voyons que des avantages.
La vidéo met en scène des gendarmes arrivant en tribu, parlant aux habitants autour d'une coutume. Elle est ponctuée d'explications d'étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui a aidé à sa réalisation. Des explications sur les symboles, les gestes qui ont aussi une signification. C'est ce travail pédagogique qui facilitera les relations, selon le capitaine Le Breton. C'est lui qui est à l'origine du projet.
Quand tu rentres en tribu, tu ne viens pas comme ça. C'est comme si c'était la maison de quelqu'un. Tu dis bonjour à tout le monde, tu apportes quelque chose de symbolique avec toi à présenter devant le chef de la maison.
Je me suis rendu compte lors d'un premier séjour à Poignimi de 2013 à 2016 que quand on connaissait bien et quand on s'intéressait à la culture kanak, les relations étaient simples pour notre travail du quotidien. C'est-à-dire qu'on pouvait rentrer en tribu, on pouvait échanger avec les gens parce que les gestes, les attitudes des certains kanaks qui peuvent entraîner des incompréhensions comme le lever de sourcil. Certains gendarmes, on ne comprend pas pourquoi il avait le sourcil alors qu'il répond. Donc quand on connaît ça, bah, du coup, ça apaise les tensions. Et même dans le cas du travail, quand là, parfois il faut aller éventuellement faire des interpellations, bah, ça se passe beaucoup mieux parce qu'on se connaît. On connaît les codes, on respecte les codes, mais ça n'empêche pas de faire son travail.
La vidéo a pu être réalisée grâce au soutien du monde coutumier, bien sûr. Les scènes ont été filmées dans la tribu de Huit Points. Les présidents des aires ont pu découvrir le résultat final cet après-midi au Sénat coutumier. Le président de l'institution, Ludovic Boula, en est très satisfait.
Parfait, c'est parlant et remercie aussi ceux qui ont fait le film. C'est un film de 8 minutes, mais qui parle bien de notre vie en tribu. L'importance pour le projet de société en global, c'est de se connaître entre nous. On a vu par les événements qu'on ne se connaissait pas. Et à travers cette vidéo, où les personnes qui arrivent de l'extérieur, c'est déjà de connaître comment nous vivons ici. Peu importe les communautés, mais comment nous vivons ici, pour que le travail se passe mieux. Et aussi éviter les amalgames et les incompréhensions.
Le haut-commissaire Jacques Billan a également assisté à la projection puisque c'est le haut-commissariat qui a financé et accompagné la réalisation du film qui sera donc diffusé en interne.
En mars dernier, la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie, la gendarmerie et le haut-commissariat ont officialisé un partenariat visant à renforcer la sécurité dans le monde agricole. Cette convention baptisée « Éleveurs et maraîchers vigilants 2.0 » formalise un dispositif déjà déployé sur le terrain depuis 2023. L'objectif est de lutter contre les vols de bétail, le braconnage, les intrusions, les dégradations, mais aussi certains conflits en milieu rural. Nous en parlerons avec nos invités dans le magazine citoyen demain midi. Nous recevrons le capitaine Lamar, officier de liaison avec CAPNC à la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie, Guylain de Coudeneuve, directeur général de CAPNC, et Stella Levanao, secrétaire de l'association Agri-Sentinelle Mondor. Et c'est le député européen André Rouget, chargé des Outre-mer au Rassemblement National, qui sera demain notre invité du matin à 7h30. Il sera interrogé sur le positionnement de son parti, sur les raisons pour lesquelles le Rassemblement National a voté la motion de rejet de la réforme constitutionnelle et sur sa position concernant le corps électoral. Une interview d'André Rouget, chargé des Outre-mer au Rassemblement National, à suivre demain à 7h30 sur RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Pour les prochaines élections provinciales prévues le 28 juin, souhaitez-vous des listes d'union entre les loyalistes et le Rassemblement? Si vous le souhaitez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. La Fédé répond à Marilyn Sakilia, l'élue du Congrès qui s'était abstenue lors du vote de la délibération en faveur de certains personnels de santé. Dans une intervention qui avait choqué, elle avait suggéré que l'insécurité vécue par les professionnels de santé pourrait résulter de leur propre comportement ou de leur attitude lors de leur arrivée en tribu ou en province. Des propos qui mettent directement en cause le professionnalisme de ces agents, déplore la Fédé qui écrit à Marilyn Sakilia que ces propos ont suscité une incompréhension profonde, mais surtout une vive irritation parmi les professionnels présents dans l'hémicycle ce jour-là. La Fédé déplore et dénonce fermement certaines de ces affirmations qu'elle juge profondément injustes au regard de leur engagement. La Fédé qui tient à réaffirmer son soutien plein et entier au personnel paramédical face aux difficultés et face aux attaques et critiques injustifiées dont il fait l'objet. Il est 17h57, première pause, avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Avec You by Kotex, restez ultra connectés. Jusqu'au 8 juin, tentez de remporter un iPhone 17 Pro, un MacBook Air 13 ou des AirPods Max. Pour participer, c'est simple. Il suffit de remplir le formulaire sur jouet.nc. Plus d'infos sur le Facebook Sakebon NC. Règlement complet déposé chez Maître Citrita.
Du lundi au vendredi, de 11h à 13h, c'est l'Infomag avec le Village Automobile au PK4 à Nouméa. Le Village Automobile, c'est un lieu unique qui regroupe un parking d'occasion, un magasin de pièces de rechange d'origine, un atelier de réparation normes constructeurs et surtout 11 grandes marques de véhicules neufs avec des offres exceptionnelles.
Info soir, Léana Colombo.
La ville de Nouméa est le port autonome engagé auprès du musée maritime. Sonia Lagarde, maire de Nouméa, Samuel Népéoun, membre du gouvernement chargé du transport maritime et président du port autonome, et Alain Lebréus, président du musée maritime, ont signé aujourd'hui une déclaration d'intention. Objectif, valoriser le patrimoine maritime et portuaire de la Nouvelle-Calédonie. Alain Lebréus.
Ce que dit le papier qu'on a signé ce matin, donc c'est rapprocher les acteurs institutionnels, culturels et économiques, valoriser l'histoire et l'identité maritime du territoire, sensibiliser les publics aux enjeux portuaires contemporains et développer des actions conjointes à vocation culturelle, éducative et patrimoniale. Parce que ce musée, c'est pas seulement un musée de la ville de Nouméa. Enfin, on est dans la ville de Nouméa, si vous voulez, mais c'est un musée qui est de Nouvelle-Calédonie. Lorsque l'on parle d'épaves de patrimoine, eh bien, les épaves, vous en avez tout autour de la côte calédonienne. Également aux îles Loyauté. Donc, cette déclaration d'intention nous conforte dans nos locaux qui, je le rappelle, appartiennent au port autonome de Nouvelle-Calédonie. Et la ville de Nouméa souhaite faire un rapprochement entre le patrimoine du port autonome et la ville de Nouméa.
Alain Lebréus, président du musée maritime. Et à cette occasion, le musée maritime a reçu du port autonome une subvention de 15 millions de francs. La ville de Nouméa renouvelle quant à elle chaque année son soutien financier au musée depuis son ouverture en 1999 dans les locaux de l'ancienne gare maritime à Nouville. Pour l'année 2026, la subvention s'élève à 5 millions de francs, soit un montant total de 23 millions de francs au cours des 5 dernières années. En bref, en raison de conditions météorologiques défavorables, le Betticho ne pourra pas assurer sa rotation vers Marée demain. La compagnie maritime annonce que la dépression, accompagnée d'une houle atteignant 3 mètres et les contraintes techniques liées à l'exploitation du navire sur 3 moteurs, ne permettent pas de garantir une navigation en toute sécurité. De plus, le navire sera en arrêt technique du 22 au 30 avril inclus pour une intervention sur son 4e moteur. Les rotations du 24 au 27 avril vers les îles sont donc annulées. Des SMS et e-mails ont été envoyés aux passagers concernés afin de leur transmettre toutes les informations nécessaires. Le bien-être animal, préoccupation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il a fait adopter une loi de pays relative à l'identification et à la cession des carnivores domestiques qui a été complétée la semaine dernière par son arrêté d'application. La loi poursuit 3 objectifs, l'identification des chats et des chiens, l'encadrement de leur cession et l'instauration d'un statut officiel pour les éleveurs. L'identification vise à responsabiliser les propriétaires et à lutter contre les abandons. Elle sera prochainement obligatoire sous ligne Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge du bien-être animal.
Les chiens et les chats, c'est une identification qui va devenir obligatoire à partir de novembre 2026. C'est pour ça qu'on communique auprès de la population calédonienne. On laisse un temps aux gens pour s'informer et comprendre ce qu'ils doivent faire. Donc ça ne concerne pas du tout les animaux qui sont nés avant cette date. Ça, je pense que c'est important. Et donc avant les 6 mois de l'animal, l'animal devra être identifié. C'est important quand on perd son animal qu'il puisse être identifié, également en matière de responsabilité. Et puis nous, ça va nous permettre de connaître beaucoup mieux la population, le nombre de chiens et chats en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir mener nos politiques publiques. Toutes ces dispositions, elles ont le même but, c'est bien sûr d'informer sur la santé de l'animal parce qu'on va pouvoir aller chez le vétérinaire et être mieux informé, et c'est de protéger les animaux pour limiter la maltraitance et les abandons.
Cette réglementation entrera en vigueur le 7 novembre prochain. À partir de cette date, des sanctions pourront être appliquées et une non-déclaration peut être passible d'une amende pouvant atteindre 100 000 francs. Un mot de santé maintenant. L'épidémie de dengue décroît. Près de 900 cas recensés selon les derniers chiffres publiés par la DAS. Cela faisait plusieurs années que le territoire n'avait pas connu un nombre aussi important de cas autochtones, et notamment depuis le déploiement du programme Volbakia. Tout le Grand Nouméa en a bénéficié en introduisant des moustiques porteurs d'une bactérie qui bloque la transmission de la maladie. Tristan Déric, 3e adjoint au maire de Nouméa en charge de la prévention des risques sanitaires, était notre invité du matin à 7h30.
C'est la preuve absolue de l'efficacité du programme parce que l'essentiel des cas, plus des 2/3 des cas recensés, ont été recensés dans les communes où le programme Volbakia n'a pas été déployé. Dans le Grand Nouméa, là où il y a la densité de population la plus importante, on est à peu près à 250 cas. Alors que sur toutes les autres communes, beaucoup moins densément peuplées, notamment Thio, Ouégoa, Puébo, on est à environ 700-800 cas. Donc, on voit bien que le programme Volbakia protège les habitants là où il a été déployé. Le but de Volbakia n'a jamais été d'éradiquer complètement la dengue et les autres arboviroses. Ça a été de casser le but, ça a toujours été dit, de casser les épidémies. Et là, ça a été un grand succès. Et donc, ce qui se passe actuellement montre à quel point ce programme fonctionne.
Le programme est malheureusement à l'arrêt depuis les émeutes de mai 2024. Aujourd'hui, à Nouméa, il y a entre 80 et 85% des moustiques qui sont porteurs de Volbakia. 18h, passé de 4 minutes, seconde pause, avant de voir tout le sport. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Et on ouvre notre page sport avec du rugby. Et ce soir, Léo Fichou, vous recevez notamment une ancienne joueuse de l'équipe de France, désormais arbitre internationale.
Oui, Aurélie Groiselot, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous n'êtes pas toute seule, vous êtes accompagnée de quelqu'un qui est assez connu sur le territoire, Mathieu Duparc. Vous êtes responsable des arbitres en Nouvelle-Calédonie.
C'est ça, bonsoir.
Et donc, cette visite, expliquez-nous un peu le principe, le pourquoi du comment. Vous vous êtes retrouvé en Nouvelle-Calédonie, arbitrez bientôt un match en Australie.
C'est voilà. Bien ça, ouais. J'arbitre le Pacifique Fort féminin, donc j'arbitre en Australie samedi. Et du coup, j'ai proposé à la Fédération française, étant pas trop loin, de pouvoir venir en Nouvelle-Calédonie pour en tout cas essayer de les aider sur la formation des arbitres et intervenir auprès des jeunes pour l'éducation à l'arbitrage.
Alors, on va en parler de cette formation, de ces rencontres sur le terrain. Avant ça, vous nous avez parlé donc de cette compétition, le Pacifique Fort Series, qui rassemble l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Canada. Vous avez déjà arbitré il y a une dizaine de jours. Racontez-nous un peu ces rencontres. Ça peut ressembler au tournoi Destination en Europe.
Oui, c'est après l'équivalent un peu du rugby championship chez les garçons. C'est vrai que c'est une compétition assez relevée maintenant, parce que le Canada est la deuxième nation mondiale, la Nouvelle-Zélande numéro 3. Donc c'est vrai que ça reste une compétition très intéressante en parallèle du 6 Nations qui a lieu en Europe.
Alors, votre parcours est à souligner. Vous êtes une ancienne internationale à 15, à 7. Malheureusement, une blessure a fait que votre carrière de professionnelle s'est arrêtée plus tôt que ce que vous auriez espéré. Mais vous avez rebondi et vous êtes devenue arbitre pro D2 chez les hommes aujourd'hui et internationale chez les dames.
Oui, c'est bien ça. C'est, voilà, à l'âge de 20 ans, j'ai dû arrêter le sport de contact. Et passionnée par le rugby, j'ai voulu trouver une manière de pouvoir continuer à participer au jeu différemment. Et du coup, l'arbitrage s'est ouvert à moi. Et voilà, avec le temps, du travail, de la persévérance, parce que être une femme dans un milieu très masculin, c'est pas toujours très simple. Et aujourd'hui, voilà, j'ai atteint des objectifs assez élevés avec, oui, participation à deux Coupes du Monde féminines. Maintenant, bientôt quasiment 50 matchs en Pro D2 et 50 matchs également internationaux. Donc voilà, une belle expérience que j'espère pouvoir continuer encore quelques années.
Le tournoi Destination aussi féminin. Vous allez repartir en Europe après cette petite tournée dans le Pacifique pour arbitrer des matchs du tournoi Destination féminin.
Oui, c'est bien ça. Du coup, je vais participer aux deux dernières journées. Donc Irlande-Pays de Galles et Irlande-Écosse. Donc du coup, ouais, j'enchaîne bien là entre ma tournée Pacifique et ensuite en Europe.
Et entre tous ces grands rendez-vous, vous êtes donc en Nouvelle-Calédonie, vous avez pu rencontrer des jeunes joueurs, des joueuses, l'équipe féminine, vous avez pu arbitrer aussi un match sur le territoire, de belles rencontres.
Oui, tout à fait. J'ai essayé au maximum de rencontrer les acteurs du rugby, voilà, de pouvoir comprendre un peu comment fonctionne le rugby ici en Nouvelle-Calédonie et de pouvoir aussi, comme je disais, un peu d'éducation à l'arbitrage, de montrer que de connaître les règles de son sport permet aussi d'être un meilleur joueur. Donc l'arbitre, ce n'est pas que le méchant qui met des cartons, c'est aussi celui qui permet qu'on puisse jouer en toute sécurité et sans arbitre, il n'y a pas de match. Donc voilà, c'est vraiment important en tout cas de pouvoir continuer à développer aussi ce volet-là du rugby, voilà, d'avoir de plus en plus de joueurs, mais aussi de plus en plus d'arbitres, pour que, en fait, tous ensemble, on puisse pratiquer le sport en toute sécurité.
Mathieu Duparc, c'était l'objectif de cette visite, que ce message-là soit passé aux jeunes Calédoniens qui pratiquent le rugby.
Oui, tout à fait. On a la chance d'être en contact direct avec la FFR et comme on a pu faire venir Aurélie qui s'était proposée, immédiatement on a sauté dessus parce que avoir quelqu'un qui a réussi à son niveau, enfin c'est l'arbitre numéro un français féminine qui est internationale, qui arrive, elle est chargée du développement de tout ce qui est féminin à la Fédé, des arbitres et du reste. Donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est comme ça en Nouvelle-Calédonie où on sait que l'égalité homme-femme est un sujet prépondérant et quelqu'un qui intervient comme ça. On a fait une intervention ce matin au lycée du Grand Nouméa avec une classe et c'était particulièrement intéressant.
Oui, alors qu'est-ce qu'il est dit aux jeunes, et surtout on va penser aux jeunes joueuses du territoire, c'est un exemple à suivre?
C'est un exemple, on a déjà des joueuses qui ont commencé l'arbitrage sur le territoire, qui sont parties, qui sont des joueuses maintenant qui jouent à de très bons niveaux, hein. Yolaine Yango, pour citer qu'un nom, qui est quand même international à 7.
Annie Conny aussi qui joue à 7.
Tout à fait, et c'est des joueuses qui en fait sur leur parcours de joueuse ont fait la formation arbitre en Nouvelle-Calédonie, donc c'est aussi un relais qui est intéressant d'avoir Aurélie qui tient ce discours ici.
Alors, vous parliez, Aurélie, de ce passage à l'arbitrage. C'est essentiel pour les joueurs de nos jours d'avoir ces notions aussi d'arbitrage?
C'est indispensable. Clairement, on se rend compte qu'à haut niveau, par exemple, un carton jaune, ça coûte un match. un carton rouge, c'est 90% de défaite. Voilà, il y a des statistiques fortes qui sont faites sur le sport de haut niveau où voilà, l'impact de la discipline aujourd'hui impacte clairement une rencontre. Je pense qu'en mémoire, on a le Bordeaux-Toulouse de la semaine dernière en quart de finale de Champions Cup où Toulouse joue 30 minutes en infériorité numérique. Et je pense qu'au final, c'est ce qui va leur coûter le match parce que physiquement, ça dépose d'énergie plus importante en étant en infériorité numérique. Donc effectivement, la discipline aujourd'hui est importante et on le voit de plus en plus d'intervenants en tout cas discipline, on ne dit pas arbitrage, on n'est pas là pour leur apprendre la règle, c'est plus de leur dire en fait, qu'est-ce que j'ai le droit de faire sur un terrain. C'est surtout ça que les joueurs ont besoin de savoir. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne que des interdits, mais surtout qu'on les accompagne sur ce qu'ils ont le droit de faire.
Et vous parliez justement, juste avant, de la place des femmes dans un monde pratiquement, on ne va pas dire 100% masculin, mais beaucoup d'hommes. On l'a vu récemment, ce week-end, notamment, une femme arbitrée en top 14, c'est une première. Vous arbitrez la Pro D2, la top 14, c'est dans un coin de la tête?
On a toujours des objectifs. Même en étant arbitre, on est des sportifs de haut niveau qui ont des objectifs. Et effectivement, quand on atteint la Pro D2, on a envie de gravir l'échelon supérieur. Maintenant, voilà, ça demande du travail et de continuer à progresser pour peut-être pouvoir y postuler d'ici quelques années.
Dernière question sur le rendez-vous de ce week-end. Ce sera samedi, Australie-Nouvelle-Zélande. Un horaire assez agréable pour nous en Nouvelle-Calédonie. 20h55, qui me semble, en métropole, sera un peu plus compliqué à suivre.
Ouais.
Mais voilà, c'est une belle rencontre en Australie près de Brisbane.
Exactement. Et puis, du coup, vous pouvez le suivre sur Rugby Pass TV, qui est gratuit en ligne. C'est World Rugby qui a mis en place pour que tout dans le monde entier, maintenant, l'ensemble des matchs non diffusés, on va dire, sur les télés classiques, puissent être suivis par l'ensemble du public rugby. Donc, vous pouvez voir tout le Seven, une grande partie du sport féminin. Et il y a juste à s'inscrire gratuitement et vous pouvez suivre l'ensemble des matchs, soit en live, soit en différé.
Et puis, pour vous suivre aussi, bien évidemment, les Calédoniens qui vous ont rencontré, j'imagine, auront à cœur de voir comment vous arbitrez, comment prendre exemple encore une fois de plus sur vous. Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Je rappelle du coup Mathieu Duparc, vous êtes responsable arbitrage à la Ligue de Nouvelle-Calédonie de rugby et Aurélie Groiselot, donc arbitre international numéro 1 française. Voilà, je n'osais pas le dire au début de l'émission, je le dis à la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous.
Merci à vous.
Aurélie Groiselot qui, je le rappelle, arbitrera samedi soir le match Australie-Nouvelle-Zélande au nord de Brisbane. Une rencontre de la troisième journée du Pacific Four Series, tournoi qui rassemble l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi les États-Unis et le Canada. Samedi aura également lieu un événement attendu par les nageurs calédoniens, petits et grands, la 30e édition du Total Energy Meeting du Cercle des nageurs calédoniens. Nous en avons parlé ce midi dans le Mac des Sports, Léo.
Oui, et cette année, les participants auront la chance de nager avec un invité d'exception, Maxime Grousset. Il sera de retour dans les bassins du CNC, là où tout a commencé pour lui. Un invité peut en cacher un autre, puisque Maxime Grousset sera accompagné de Roman Fuchs, champion tricolore du 200 mètres. Les deux athlètes sont en Nouvelle-Calédonie pour 2 semaines, non pas 2 semaines de vacances, mais 2 semaines de préparation pour la suite de la saison. Écoutez Roman Fuchs.
On est là en stage, donc on va travailler pendant 2 semaines. On a pour objectif de bien préparer tout ce qui est échéance à venir. Donc déjà les sélections au championnat de France N1 en fin juin et les championnats d'Europe qui se dérouleront à Paris cet été en France en mois d'août.
Ce meeting CNC 50 mètres nage libre, c'est pas votre spécialité le sprint, mais vous êtes là quand même et vous avez envie de venir titiller Maxime Grousset qui pour lui, 50 mètres nage libre, c'est sa spécialité.
Oui absolument, l'une des spécialités, oui, parce que lui c'est surtout orienté 100 mètres. Moi je suis plutôt spécialiste du 200 mètres, mais après ça m'empêcherait pas de venir le challenger sur le 50, en tout cas avec plusieurs répétitions du 50, peut-être qu'il sera fatigué et je pourrais aller le chambrer un peu, mais non, moi je suis surtout là pour mettre un peu de challenge et de défi à son stage.
Roman Fuchs et Maxime Grousset seront donc défiés samedi lors du meeting par plus de 400 nageurs calédoniens. Les organisateurs espèrent arriver à 500, des plus jeunes aux plus expérimentés. Écoutez Cécile Marquez, présidente du CNC.
C'est le rendez-vous de la natation calédonienne qui permet de rassembler toutes les générations autour d'une épreuve de sprint. Donc la formule fonctionne et on est là pour la 30e édition.
Oui, vous avez commencé à l'évoquer, c'est une épreuve spécifique. Il n'y a que du 50 mètres nage libre.
Exactement, donc il y a une seule épreuve qui est le 50 nage libre. Mais pour cette 30e édition, on a ouvert une épreuve pour les petits sprinteurs. Donc les enfants de 7 ans et moins pourront faire un petit 25 mètres. Les Calédoniens aiment s'y rassembler parce que le club essaye d'organiser la venue de nageurs internationaux. ce qui permet de faire venir le haut niveau jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Et donc, ça rassemble ensuite les petits sportifs qui sont bien heureux de pouvoir les rencontrer et de pouvoir nager aussi pour leur club et devant leur famille.
Ce midi, dans le MAC des Sports, nous recevions également Michel Chrétien, entraîneur de l'équipe de France de natation. La 30e édition du meeting du CNCC, donc samedi. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à mercredi soir. L'émission MAC des Sports est à réécouter sur notre site internet en podcast audio.
Merci Léo Fichou. On passe tout de suite à la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous Ismaël.
Et on ouvre ce bulletin avec une vigilance jaune forte houle pour cette nuit et demain mardi au moins sur l'île des Pins, la côte ouest et Belay pour une houle longue de sud-sud-ouest de 3 mètres à 3,50 mètres, localement 3,50 mètres à 4 mètres au sud de Bouraille. Cette nuit, qu'est-ce qui se passe? C'est bien de la pointe nord au nord des Loyautés et des bancs de nuages bas stagnent ailleurs après un début de nuit sous un ciel étoilé. Des nuages élevés.
Élevé.
Merci beaucoup. Viennent voiler le ciel alors que des nuages bas abordent le sud-ouest et donnent quelques gouttes par endroit. Le vent de secteur sud est généralement compris entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur l'extrême nord et plutôt 5 à 10 nœuds sur le sud-ouest. Les minimales sont stables, on légère baisse avec 17 à 22 degrés en général, localement 15 à 16 degrés dans l'intérieur des terres.
Eh bien, merci beaucoup Ismaël. Vous voyez, vous êtes arrivé au bout. Et c'est également la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le rappel des titres. Et tout de suite, c'est le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Cette semaine, l'invité est Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je souhaite à tous une très bonne soirée sur Radio Rythme Bleu.